Bonjour. Vous allez bien? Personne n'est plus haut que Jésus. Vous le croyez? Dieu est fidèle. Vous le croyez aussi? Alors vous êtes motivé aujourd'hui? Vous êtes motivé pour vous lever, aller servir Dieu? Ah, c'est des petits oui, hein? Quand je dis ça, elle est gentille, la stagiaire, mais si elle veut nous faire lever pour aller bosser tout de suite, on n'est pas très pas sûr d'avoir envie, c'est ça? Ah, moi je pensais que ça allait vous dire qu'on s'y mette là, tous ensemble, hommes, femmes, vieux, jeunes, grands, petits, maigres, gros, puis qu'on aille servir le Seigneur. Non, ça ne vous parle pas trop, pas tout de suite? On va voir la suite du message alors. Quand est-ce qu'on va aller servir la Chaux-de-Fonds? Ça ne vous dirait pas qu'on aille mettre le feu à la ville, le feu spirituel, à la ville de la Chaux-de-Fonds? Tout ça pour la gloire de Dieu. En même temps, si vous êtes comme moi, des fois on se dit, ouais, bof, 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 franchement, moi, qu'est-ce que je pourrais bien apporter à ça? Dieu, il est grand, il est tout puissant. Moi, je suis toute petite, tout petit. J'ai pas de force, j'ai pas beaucoup d'argent, je suis peut-être pas très intelligent, merci. J'ai pas fait de grandes études. Je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop gros, je suis trop beau, ou bien je le suis pas assez. Moi, je suis trop vieux. Ou peut-être même que je suis trop jeune. Ah, puis je suis trop fatiguée aujourd'hui. Peut-être demain, si je ne suis pas fatiguée, parce qu'hier, j'étais fatiguée aussi. Ah, puis j'étais tellement meurtrie par la vie. Puis moi, je n'ai pas beaucoup d'influence. Puis moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience non plus. Puis je n'ai pas beaucoup d'amis. Ah, puis il y a tellement de péchés dans ma vie. Puis j'ai connu beaucoup d'échecs. Puis d'ailleurs, je ne réussis jamais rien. Ah, puis je suis trop déprimée, je suis trop nulle. J'ai rien à apporter au monde. Je ne sers à rien. Je ne vois vraiment pas comment Dieu pourrait m'utiliser. On peut même avoir des idées autres. Moi, je n'ai plus rien à apprendre parce que je sais déjà tout. Et puis moi, j'ai déjà tout donné. Alors, je ne donne plus rien, j'attends que les autres ils me donnent. Je peux vous en sortir encore beaucoup, hein, comme ça, hein, parce que j'ai des tas d'idées comme ça, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et si vous avez du mal à trouver la motivation pour vous engager à servir de tout cœur dans le projet que Dieu a pour vous et a pour le monde, eh bien, si vous avez du mal à croire que Dieu peut vous utiliser et avec vous et à travers vous, accomplir des choses extraordinaires, eh bien, vous avez bien fait d'être là ce matin. Si vous voulez encore partir, vous pouvez, je ne vais pas vous attacher. Mais sinon, vous avez bien fait d'être là. Cette prédication d'aujourd'hui s'inscrit dans une suite qu'on a construite avec Nicolas. Il a prêché au mois de juillet, il nous a parlé de Luc, Luc 5, et il nous a parlé des regards de Dieu, comment Dieu nous considère, comment il considère notre vie, comment il considère ce que nous pouvons devenir. Il nous a aussi parlé de nos regards, comment chacun de nous se considère lui-même, comment nous considérons les autres et même comment nous considérons Dieu. Nicolas nous a expliqué comment chacun de ces regards, que ce soit ceux de Dieu ou les nôtres, avait un impact dans nos vies. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler de ces regards et de ces impacts qu'ils peuvent avoir dans nos vies. Des impacts au point qu'ils peuvent nous faire avancer, nous faire grandir, nous faire progresser, nous rendre rayonnants et faire de nous le sel de la terre. Ils peuvent nous emmener sur des chemins extraordinaires, lointains, sur lesquels on n'aurait jamais pensé oser marcher. Mais il y a aussi des regards qui peuvent nous faire rester sur place. Nous faire reculer, nous faire renoncer, des regards qui peuvent nous briser, nous détruire. Des regards qui sont malveillants, accusateurs, jugeurs. Nous pouvons avoir des regards décourageants, des regards qui nous font renoncer et même des regards hypocrites. Souvent, nous oublions qu'il est écrit que par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes filles et fils de Dieu. Nous avons été adoptés par l'Esprit de Dieu. Et par cette adoption, Dieu attend que nous soyons des enfants actifs, des filles et des fils témoins de son œuvre. Et pour cela, il nous donne des regards différents. Il nous donne des regards différents sur nous-mêmes, sur les autres, sur lui. Il nous donne des regards qu'il attend qu'à notre tour, nous ayons pour les autres. Et avec ces regards, il nous donne des dons. Des dons qu'il attend que nous exercions. Alors pour voir, nous allons lire 1 Pierre 4, 7, 11. Et comme il n'y a personne au bémeur, vous ne l'aurez pas affiché. Donc je vous invite à lire, ouvrir vos Bibles pour ceux qui en ont. Sinon, il y en a quelques-unes au fond pour ceux qui en veulent une. Donc 1 Pierre 4, 7 à 11. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une multitude de fautes. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Car c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans ce passage, nous trouvons deux sortes de dons. Les dons qui sont appelés charismes. Quand il parle des dons, c'est ce mot charisma qui vient, la racine. Et c'est un mot que nous trouvons uniquement dans les lettres de Pierre et de Paul. Il signifie étymologiquement qu'il est le résultat d'une action, une action de grâce. C'est donné gracieusement. La première catégorie de dons dont il est parlé, c'est l'hospitalité. L'hospitalité est un don naturel. Au même titre qu'être musicien, comptable, enseignant, cuisinier, avoir un don artistique, une intelligence hors norme, une aptitude physique extraordinaire. Tous ces dons sont des dons naturels. Ils sont des aptitudes que Dieu nous a données à la base. En général, on les a dès la naissance. Car Dieu est le dispensateur de toutes choses. Mais Dieu fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Il nous forme dès le ventre de notre mère. Donc ces dons, tous, chrétiens, non-chrétiens, païens, bouddhistes et tout ce que vous voulez, tous ont ces dons et ces aptitudes. Mais Dieu nous les donne et il ne nous court-circuite pas dans notre nature profonde qu'il a mise en nous. Souvent, lorsque nous nous convertissons, il choisit d'utiliser pour la partie pratique de nos vies et de celle de l'Église nos dons naturels. Pour ça, il les fait passer par une purification comme tout le reste de notre être. La deuxième chose que l'on voit, c'est les dons spirituels. La prière, le parler, avoir des paroles de connaissance, c'est les dons spirituels. Cela, on les reçoit lors de notre conversion ou lors de notre baptême. Ils sont accordés par l'Esprit-Saint pour l'édification spirituelle de l'Église. Comme ça vient le complément des dons naturels et des dons spirituels. Dans ces dons spirituels, on y trouve différents charismes. On trouve le charisme de fonction, les apôtres, les pasteurs, les enseignants, les dirigeants. Et les dons que l'Esprit, le Saint-Esprit, répand sur tous. La consolation, le diaconat, le service, l'hospitalité, le don de la foi, ils en font partie. Il y en a d'autres, hein, mais les listes sont longues, donc je ne vais pas tous les énumérer aujourd'hui. Les charismes ce qu'on appelle, nous, carrément, souvent on dit ah, c'est une église charismatique qui parle en langue, mais en fait, les charismes, à la base, sont les dons naturels et spirituels qui souvent ont un lien entre eux. Ils nous sont donnés par Dieu pour faire le bien autour de nous, pour aider et soutenir notre prochain, notre frère, notre sœur, nos dirigeants, les membres de notre famille, nos amis, et même ces gens que nous côtoyons tous les jours dans la rue, au travail, dans les transports publics, et que nous ne connaissons pas réellement. Tous les dons que nous avons sont faits pour mettre à la... pour offrir, pour mettre à la disponibilité des autres. Par ces dons de grâce, que sont ces charismes, le chrétien devient ouvrier avec Dieu. En nous donnant ces dons, Dieu nous a fait confiance et il veut que nous puissions les utiliser à bon escient. Alors pour cela, il nous métamorphose. Et comme la chenille est métamorphosée en papillon, vous avez déjà vu une chenille ? Elle est toute vilaine, là, toute poilue, elle se traîne par terre. Des fois, on dit « Oh, est-ce qu'elle est vilaine ?» Et tout à coup, arrive un jour où elle quitte sa coquille de chenille et elle devient un magnifique papillon, elle ouvre ses ailes et elle s'envole. Eh bien, de la même manière, Dieu nous métamorphose. Parce qu'il veut que nous soyons des êtres rayonnants de sa présence dans nos vies. Le problème, c'est que chaque fois que nous minimisons nos dons naturels, les dons que Dieu nous a donnés à la base, nous mettons un frein et nous fermons la porte aux dons spirituels que le Saint-Esprit veut nous confier. Chaque fois que nous nous lamentons sur notre sort, sur qui nous sommes, sur notre physique, sur nos capacités, etc., etc., nous retardons l'œuvre de Dieu en nous. Et même pire, nous déshonorons Dieu, puisque c'est lui qui nous a créés et qui nous a équipés avec ses dons. Qu'ils soient naturels ou qu'ils soient spirituels, c'est Dieu qui nous équipe. Donc chaque fois qu'on critique l'un de ses dons, ou qu'on le rejette, ou qu'on se lamente dessus, eh bien, on déshonore Dieu. C'est dur, hein, ce que je vous dis là. Ça va ? Bon, je continue alors. Souvent, nous attendons d'être parfaits pour nous engager réellement avec Dieu, pour nous engager réellement avec notre Église, pour nous engager réellement dans le service. On se dit, oh, je ne suis pas parfait. Nous avons trop souvent tendance à penser que Dieu ne peut pas nous utiliser car nous sommes trop ci, ou trop ça, ou trop patati, ou trop patala. Pourtant, si nous regardons dans la Bible, nous allons faire de drôles de rencontres. Et aujourd'hui, là, je vais vous emmener faire un petit voyage et rencontrer quelques personnages de la Bible. Nous allons commencer par Noé. Noé, il est écrit qu'il était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Dieu a établi une alliance avec lui et sa descendance. Pourtant, Noé s'est enivré. Il s'est enivré au point qu'il s'est baladé nu et que l'un de ses fils l'a vu et qu'il a été maudit pour ça. Abraham était trop vieux lorsque Dieu lui a dit que de lui naîtrait un peuple nombreux comme les étoiles du ciel. Il était trop vieux, pourtant Dieu lui a donné Isaac. Et il a fait une alliance avec eux. Joseph a été maltraité. Il a été vendu par ses frères avant de devenir gouverneur d'Égypte. Le pharaon avait vu en lui l'Esprit de Dieu. Moïse dut fuir le palais du pharaon car il était un meurtrier. Il avait tué un Égyptien qui s'en prenait à un Juif. Pourtant, c'est à lui que Dieu a confié la mission de faire sortir son peuple d'Égypte. Anne était stérile. Elle restait trop longtemps en prière et pleurait trop, au point que le sacrificateur Élie a cru qu'elle était ivre. Il voulait qu'elle s'en aille. Pourtant, elle devint la mère de Samuel l'un des plus grands prophètes qu'Israël ait connu. Déborah était une femme, pourtant elle était prophétesse et juge en Israël et Dieu l'avait placée à la tête de son peuple. Samson avait les cheveux trop longs, Rahab était une prostituée. Le roi David fut adultère et meurtrier, pourtant il est écrit que Dieu avait trouvé un homme selon son cœur. Jérémie le prophète était tellement déprimé que l'un de ses livres porte le nom de Lamentation, parce que ses plaintes et ses larmes étaient sans fin et importunaient tout le monde. Jonas a désobéi à Dieu et il s'est enfui loin de lui. Jean le Baptiste vivait avec une espèce de peau de bête autour de la taille et mangeait des sauterelles. Marthe se faisait trop de soucis. Marie-Madeleine était possédée par des démons. La Samaritaine avait couché avec plusieurs hommes. Jachée était trop petit. Timothée avait un ulcère à l'estomac. Et Lazare, il était trop mort. Et puis alors, ceux qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est les disciples et les apôtres. Parce que Paul, avant de devenir le plus grand des apôtres que tous les temps aient connu, était persécuteur et tueur des chrétiens. Il leur courait après pour aller les tuer. C'est ainsi qu'il a rencontré Dieu un jour dans une course. Alors qu'il allait tuer des chrétiens, il a rencontré Dieu. Pierre, quant à lui, était colérique et impulsif, au point que dans le jardin de Gethsémané, quand les gardes sont arrivés, il a sorti son épée, il a coupé l'oreille à l'un. Et tout le reste de l'équipe, quand Jésus allait être arrêté et qu'il leur a demandé de prier dans le jardin de Gethsémané, ben, ils se sont tous endormis. Au lieu de prier, ils ont dormi. D'un point de vue humain, aucun d'entre eux ne tient la route. Vous êtes d'accord ? Il n'y en a pas un dont on peut dire oh, c'était un homme ou une femme parfaite. Il tenait la route, pas de péché. Pourtant, tous furent serviteurs et servantes du Seigneur. Et leurs noms sont mentionnés dans la Bible. La Sainte Bible, la parole de Dieu, leurs noms sont inscrits dedans. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre toutes ces personnes ? Vous avez des idées ?
La foi. Ils étaient pécheurs.
La foi, ils étaient pécheurs, effectivement. Et puis, vous en avez d'autres ? Pardon ? Ils aimaient Dieu. Et Dieu les aimait. On s'approche. Aussi, oui. Ils avaient tous à cœur le désir de servir Dieu. Malgré leurs péchés, malgré leurs fautes, malgré tout ce qu'ils ont pu faire de mal dans leur vie, malgré les lamentations de Jérémie, ils avaient à cœur de servir Dieu. Ils étaient prêts à se lever et à aller servir Dieu. Même Lazare, qui était mort, s'est relevé quand Jésus l'a appelé. La Bible ne nous cache pas leurs erreurs. Elle ne nous cache pas leurs péchés ou leurs échecs. Dieu sait tout ça. Pourtant, il les a considérés au-delà de tout ça. Car Dieu voyait ce qu'ils pouvaient devenir. Même en connaissant ce qu'ils avaient été et ce qu'ils étaient encore pour certains, Dieu savait ce qu'ils allaient devenir, ce qu'ils pouvaient devenir, s'ils faisaient le pas de se lever. Et le regard de Dieu, ce regard de confiance, a impacté leur vie. Son regard a changé les choses et a bouleversé leur destin. Romains 8 nous dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. » Tous ces hommes et ces femmes dont parle la Bible ont quitté le chemin de l'esclavage. Ils ont quitté le chemin de la crainte. Ils se sont levés pour servir Dieu. Ils n'étaient pas parfaits, ils étaient imparfaits. Le roi David, alors qu'il servait Dieu, a continué de commettre des péchés. Mais à chaque fois, il s'est humilié parce que son cœur était sincère. Il savait qu'il faisait des erreurs, mais il s'humiliait devant Dieu. Et ces psaumes sont connus partout. Même des non-chrétiens connaissent les psaumes du roi David.
Moi, je ne connais pas par cœur.
Non, moi non plus. Mais on connaît une partie des psaumes. À présent, aujourd'hui, bien-aimés, sœurs et frères, eh bien, nous pouvons aussi nous lever pour servir Dieu. Nous aussi, nous pouvons décider dans notre cœur que nous allons nous lever et le servir. Nous aussi, nous pouvons quitter le chemin de la crainte et de l'esclavage pour pouvoir servir Dieu là où il nous appelle. Dans les ministères, dans les dons, dans les charismes dans lesquels il nous appelle. Quel que soit le problème, la souffrance, la difficulté que nous avons traversée ou même que nous traversons encore, nous pouvons les combattre et les vaincre en nous mettant au service de Dieu. Même si nous nous sentons délaissés, même si les autres nous tournent le dos, même si nous avons l'impression parfois que nous ne nous relèverons jamais, que jamais nous ne sortirons d'une situation tellement difficile et tellement compliquée, que jamais les difficultés s'arrêteront, eh bien le Seigneur, dans sa grande miséricorde, il nous fera trouver grâce. Et même si actuellement vous vous sentez nul, même si vous pensez que vous n'avez pas un rôle super important à jouer pour Dieu et que ce n'est peut-être même pas la peine que vous vous leviez, eh bien vous pouvez sortir de ces schémas de pensée, car Dieu voit vos capacités. Dieu voit ce que vous pouvez devenir si vous osez lui prendre la main et vous lever. Jésus, bien qu'il connaisse nos fautes, nos erreurs, nos défauts, il ne nous considère pas à travers eux. Il nous considère avec lui, avec ce que nous sommes en lui, c'est-à-dire des servantes et des serviteurs, des filles et des fils adoptés par Dieu. Moi, j'étais trop maigre. J'étais trop grande. J'étais trop timide. J'avais un problème d'élocution. J'avais un cheveu sur la langue et je bégayais. Je n'avais pas fait de grandes études. J'ai connu la maltraitance, j'ai connu la violence, je suis divorcée. Ça fait beaucoup, humainement parlant, pour une seule personne. Ça fait beaucoup de rejets, ça fait beaucoup de désamour, ça fait beaucoup de choses où on se dit « Non, mais moi, je ne vais pas y aller, parce que je suis trop ça, et j'ai trop vécu de ci. » Pourtant, Dieu m'a fait grâce, il m'a appelée à le servir. Je me souviens de ce matin, il y a quelques années, j'étais à l'église à Grenoble, une grosse église, l'église du Chandelier, 500 personnes. Et il y avait un ministère là devant, un évangéliste qui était venu. Bon, je le connaissais, je l'avais déjà vu, je le connaissais bien, il faisait partie de notre cellule de prière. Et ce dimanche-là, il dit, ce matin, là, tout de suite, que ceux qui ont envie de lever le Seigneur, lèvent la main. Et moi, je lève une main. Et il continue de parler et je l'écoute et tellement motivée, je lève les deux mains. Et j'avais une de mes grandes amies à côté de moi, et elle fait pareil. On était là, les deux mains levées. Je vous assure que dans la même semaine, nos vies ont été retournées. Le Seigneur, il a bouleversé nos vies. On a vu des miracles. On a eu de grandes tristesses. Mais le Seigneur a fait son œuvre, parce qu'on avait levé la main. Quand on lève la main, on fait le premier pas. Et après, on se lève de la chaise au culte le dimanche et on va faire le pas suivant. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, il nous appelle à nous lever et à le servir. Dieu ne veut pas que nous soyons enfants de Dieu uniquement pour venir nous asseoir sur les bancs de l'église le dimanche, écouter la prédication, chanter un petit peu, et puis rentrer à la maison, et c'est bon, j'ai fait mon action de la semaine. Dieu veut qu'on se lève, chacun avec nos possibilités, et lui, il nous donne la force. Il nous a donné des dons, il nous a donné des capacités. Ça fait 2 ans et demi que je suis stagiaire ici. Et quelques-uns parmi vous m'ont dit, mais, mais moi, je ne peux pas, je n'ai pas de grande capacité, je n'ai pas beaucoup de force, je ne vais pas y arriver, puis je ne sais pas quoi faire. Et à tous, je vous ai répondu, voilà, regarde au Seigneur. Le Seigneur, il t'a donné des dons naturels, des dons spirituels, et il va les faire grandir en toi si tu te lèves, mais il faut te lever. J'ai l'un de mes amis, il est chrétien, et ça fait en tout cas 25 ans qu'il est assis dans son fauteuil, il attend un message de Dieu. C'est un grand évangéliste, il a un super ministère d'évangélisation. Et un jour, il a vécu quelque chose qui a fait qu'il s'est assis dans son fauteuil, il a attendu le message. Mais il attend un message particulier de Dieu. On est plusieurs à l'entourer dans la prière, à prendre du temps avec lui, et on sait que le message, il l'a reçu. Mais il ne l'a pas reçu avec les mots que lui, il voulait. Alors, il est assis dans son fauteuil. Et moi, ça m'attriste. Et je n'ai pas envie que vous soyez assis dans un fauteuil à attendre comme ça et à ne pas vous lever. Alors que tous et toutes, autant que vous êtes ici, vous avez des dons et des capacités. Dieu vous a équipés. Il a fait le nécessaire. Le regard de Dieu sur vous, sur nous, peut impacter toute notre vie. Ni le sexe, ni l'âge ne peuvent empêcher Dieu de vous utiliser. Dieu n'appelle pas des gens qui savent tout, des gens qui sont parfaits, qui sont déjà tout équipés. Il appelle des cœurs qui veulent le servir. Il appelle des âmes qui veulent le servir. Il appelle des êtres qui sont prêts à se lever pour le servir. Et après, Dieu les équipe. Alors, ne laissons pas nos propres pensées, nos propres préjugés devenir des obstacles aux dons et aux services dans lesquels Dieu veut nous conduire et dans lesquels il nous appelle. Ne laissons plus nos regards sur nous-mêmes, sur les autres et même sur Dieu être des freins à nos vies ou nous empêcher de nous lever. Parce que quand on se dit « Oh, mais Dieu, il est beaucoup trop grand, il est beaucoup trop haut », eh bien, on n'a pas le bon regard sur lui. Ça nous empêche de nous lever. On se dit, oh, il est haut, il ne nous écoute pas, ou de temps en temps, quand il a le temps. Non, 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 Dieu, il est là, il vous aime, il est présent, constamment, jour et nuit. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Vous êtes la prunelle de ses yeux, nous sommes la prunelle de ses yeux. Dieu est là en permanence. Alors, osons nous lever. Osons entrer dans les dons, dans les charismes que Dieu nous a fait la grâce de nous donner, afin que nous le servions. Osons nous lever, afin que Dieu soit glorifié et que nous soyons enfin le sel de la terre qu'il veut que nous soyons. Amen. Amen. Alors on va se lever. Waouh, vous êtes motivés. Super. Bravo. Ben, je suis debout déjà. Je ne sais pas si je peux l'être plus que ça. Je vais prier pour vous, puis après je vais finir. Non, 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 c'est casse-figure. Et puis je vais finir pour vous, puis après j'ai encore quelque chose à vous dire, mais en tout cas je vais prier pour vous. Oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie Seigneur et je te rends grâce parce que ta gloire règne encore aujourd'hui parmi nous. Parce que jamais tu nous abandonnes, toujours tu es là Seigneur. Et ce matin encore tu fais lever les cœurs. Tu fais lever les cœurs, tu fais lever les âmes, tu fais lever les êtres Seigneur. Certains n'ont pas pu se mettre debout physiquement, mais ils sont debout dans leur cœur Seigneur. Et moi je veux te remercier Seigneur pour tous autant qu'ils sont. Seigneur, je te demande de faire couler sur eux encore tes dons et tes charismes, qu'ils soient naturels, qu'ils soient spirituels. Tout ce que tu veux donner encore aujourd'hui, Seigneur, je te demande de le faire couler encore. Aujourd'hui, dans cette semaine, dans les jours à venir, Seigneur, remplis les cœurs, remplis les âmes, remplis tes enfants, Seigneur, tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui disent Amen, tous ceux qui disent Abba Père, tous ceux qui te reconnaissent, Seigneur, tous ceux qui ont ce désir de faire le pas pour toi, Seigneur. Merci de qui ils sont, Seigneur. Merci de cette levée de ton armée. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, je vous autorise. Je vous le disais tout à l'heure, donc cette prédication s'inscrit dans un programme qu'on a préparé avec Nicolas. Il a commencé, moi je continue, on va se relayer comme ça, on va vous faire une suite de prédications. Elle se termine à chaque fois, donc si vous en loupez une, c'est, vous ne croyez pas que ça va être très grave, c'est pas grave. L'important c'est d'être là et de les écouter. Elles s'inscrivent dans un programme parce qu'au mois d'octobre, nous allons avoir une semaine d'évangélisation qui s'appelle The Turning. On vous en a déjà parlé, c'est une semaine où on va aller dans les rues, vraiment dans l'idée d'aller porter l'amour du Père. C'est une semaine un peu spéciale d'évangélisation. Et en fait, il va y avoir tous les jours, pendant une semaine, il va y avoir des réunions ici, dans l'église, et puis des temps où on sera à l'extérieur. C'est quelque chose qui va se faire avec plusieurs églises réunies. Donc, on espère être nombreux. Pour l'instant, il n'y a que des leaders. Alors, on aimerait un petit peu d'autres personnes. Donc, Nicolas, dans sa présentation, va vous parler un peu de tout l'aspect spirituel de cette semaine-là, et moi plutôt de tout le côté pratique. C'est mon domaine. Donc, du coup, l'église de réveil, ici, va être le quartier général pour le haut des montagnes. Donc, les autres églises vont venir ici, et depuis ici, on partira chaque jour, on se réunira chaque soir, et on repartira chaque jour. En fait, les journées vont se passer comme ça, elles vont durer, partir sur 24 heures, et en fait, elles commenceront le soir. On a des drôles d'idées. Hein. C'est parce que comme ça, le soir, on va prendre des temps de louange, des temps de prière, des temps d'enseignement dans le cœur du Père. On va s'en remplir, se ressourcer de force pendant la nuit. Et le lendemain matin, on partira sur le terrain pour aller évangéliser. Après chaque sortie sur le terrain, on revient à l'église, on débrief de notre sortie, on mange. Et puis, on repart. Donc, certains parmi vous m'ont déjà dit, mais moi, tu sais, l'évangélisation, ce n'est pas mon truc, je suis timide. D'ailleurs, c'est un programme. Dans les églises où il a commencé, en fait, il y avait des gens très timides, toujours assis au fond de la salle, qui ne se levaient jamais, qui ne parlaient jamais. Eh bien, là, avec ça, ils les ont vus se lever et aller évangéliser. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est beau. Et l'idée, c'est de faire lever toute l'Église, tous les hommes, les femmes, les générations, de faire lever tout le monde avec ce programme. Et donc, effectivement, je comprends que certains parmi vous n'aient pas forcément envie ou à cœur ou le charisme pour sortir dans la rue, pour aller évangéliser, ce que je comprends très bien. Mais dans cette semaine-là, il y a plein d'autres choses à faire. Donc, du coup, par exemple, il va nous falloir du monde à l'accueil, à l'église, parce que le soir, quand on va arriver, les gens vont arriver d'un peu de partout, ben, qu'il y ait du monde à l'entrée pour les accueillir. Il va falloir des personnes pour la louange. Alors, on a des personnes responsables de la louange, mais elles ont besoin de chanteurs, de musiciens, pour pouvoir tous les soirs assumer la louange. On a un groupe d'intercession qui va se mettre en place, donc on aura besoin de monde pour prier. Et puis, on aura les repas de midi et du soir, parce que certains vont arriver avec leur petit pique-nique, parce qu'ils ont quelqu'un à la maison qui cuisine, ou bien certains vont arriver avec des sandwichs, mais beaucoup seront sur le terrain, n'auront pas forcément quelqu'un pour cuisiner, ou les couples seront les deux sur le terrain, ils ne pourront pas cuisiner. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse quand même manger à sa faim, parce qu'une bonne armée, pour qu'elle tienne le coup, il faut la nourrir. Il faut qu'elle dorme, qu'elle se ressource et qu'elle mange. Donc là, aussi, l'idée, c'est d'avoir des personnes qui amènent des repas le midi, le soir. Alors, il n'y a pas besoin de grands repas et ce n'est pas quelqu'un qui va faire toute la semaine. Vous pouvez dire, bah, tiens, moi, le lundi à midi, je vais amener des tartes salées, des tartes sucrées. Puis, vous nous amenez des tartes salées, puis des tartes sucrées. Vous pouvez nous dire, oh, ben, nous, moi, mardi soir, je vais amener des salades et vous amenez des salades. L'idée, c'est vraiment vous amener, vous sentir libre, mais surtout vous sentir appelé par le Seigneur dans une des activités. C'est vraiment, il y a aussi le beamer. Chaque soir, on aura besoin du beamer et de la sono. Donc, on a Josquin qui est responsable de la sono. On n'a pas de responsable au beamer. Il nous faudrait quelqu'un au beamer qui connaisse le truc parce que le quartier général pour toute la Suisse romande sera à Tavannes. Et donc, les messages vont être retransmis par Internet depuis Tavannes le soir. Donc, il faut qu'on puisse capter le signal Internet et si ça bloque, il faut quelqu'un qui sache quoi faire. Mais quand Dieu nous appelle, il nous appelle. Quand on est arrivé là tout à l'heure au culte, moi, je venais prêcher, je me suis installée là, puis il n'y avait personne au beamer. Alors, je ne connais rien au beamer, j'y suis allée, j'ai regardé, hop, 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 j'ai appuyé sur des touches Et vous avez eu la projection. J'espère que ça n'a pas été trop mauvais, je ne vous ai pas trop perdu. Ça avait l'air de suivre. Donc, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de petits et de grandes choses. Dans une semaine comme ça, tout le monde est important, tous les services sont importants. Ceux qui sont sur le terrain n'ont pas plus de privilèges ou ne sont pas mieux lotis que ceux qui sont à l'intérieur. Tout le monde a sa place. Dieu nous a mis à cœur avec les responsables de se préparer à cette semaine. Ça fait depuis le mois de janvier ou février qu'on est formé. On fait cette formation pour pouvoir conduire l'Église dans cette semaine-là. Et si Dieu a mis à cœur aux responsables de se lever pour faire cette formation, c'est qu'il a un plan pour l'Église avec ça. Donc je vous encourage, nous vous encourageons à vous lever. Alors, pour les infos, vous avez vu, voilà, vous pouvez quand même contacter Nicolas Buret pour tout ce qui est spirituel, organisation, tout ça. Et puis tout ce qui est pratique, donc les repas, l'accueil, la prière et tout ça, vous pouvez me contacter, il y a mon numéro. Me contacter ou me mettre un SMS et tout ça. Moi, je vais être un petit peu absente au mois de septembre. Je vais revenir pour la semaine au mois d'octobre. Mais vous pourrez toujours me contacter par SMS, par email, par WhatsApp et par téléphone si besoin, si vous n'avez pas autre chose. Voilà, pour toute information de plus, je me tiens à votre service. Merci.